Salut les sportifs, c'est Hermano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'un truc. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de Bray-Dunes, près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1 500 km en 30 jours, à raison de 50 km de course et de 2 heures de nage au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière deux assos. Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais c'est franchement pas facile de courir plus de 150 km par semaine tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une rencontre que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Mouezza, qui est depuis devenu mon préparateur mental. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau. Mais plus on avance avec Marc, et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs, qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Je suis aussi devenu un meilleur professionnel, un meilleur papa et un meilleur époux. Alors, chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc, je t'invite à aller faire un tour sur agri2pa.me/mrc. Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode.
Salut les auditrices, salut les auditeurs. Comme promis lors du premier épisode de cette saison 4, on se retrouve déjà une semaine après le premier épisode pour la première FAQ dans lequel on va répondre à des questions d'auditrices et d'auditeurs. On a reçu plusieurs questions et aujourd'hui on va se concentrer sur une question intéressante qui nous a été posée par Steve qui nous pose quelle question, Hermano ?
Alors je vais lire cette question. Vous excuserez le format un peu plus lu que improvisé comme d'habitude. Bon alors déjà Steve, merci pour ta question. Alors Steve commence par nous dire bonjour, c'est très gentil. Il nous dit qu'il se pose une question à laquelle il ne trouve pas de réponse. Voilà la question. Je fais du vélo et comme préconisé dans le podcast, je roule la majorité du temps à basse intensité pour favoriser l'utilisation de lipides et ainsi me faire la caisse. Lors de mes sorties, j'ai toujours des boissons isotoniques dans mes bidons. La question que je me pose est-ce vraiment la bonne solution ? Je m'explique. Roulant à basse intensité et utilisant des lipides, n'est-ce pas contre-productif de boire des boissons isotoniques, donc sucrées ? Brûler des graisses et boire du sucre que mon corps n'aurait pas forcément besoin et qui serait donc transformé en graisse. Faut-il rouler uniquement avec de l'eau et une pastille d'électrolyte ? Finalement, quelle devrait être la stratégie alimentaire boisson lors des sorties à faible intensité pouvant durer de 2 à 6 heures ? Alors, c'est pas une question, c'est plusieurs questions. Est-ce qu'on commencerait pas déjà par faire une petite introduction sur ce qu'on s'est déjà dit, notamment avec Denis, sur les filières énergétiques ?
Alors oui, moi j'étais prêt à citer Denis Boucher à de multiples reprises pour répondre à ces plusieurs questions qui en forment une générale. Et effectivement, alors, Denis nous a parlé de plein de choses au cours des épisodes des saisons précédentes par rapport aux filières énergétiques, par rapport à tout ce qui touche à la nutrition et à l'hydratation. Et effectivement, il y a plusieurs choses à citer. Je ne sais pas si tu as quelque chose en particulier que tu voudrais qu'on aborde pour commencer à répondre à ces questions, Hermano.
Peut-être rappeler un tips que donnait Denis quand on avait fait l'épisode spécial sur l'hydratation, ce serait déjà Steve, pour savoir exactement quelle quantité de liquide tu utilises, c'est te peser avant l'entraînement et te peser après. Alors, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire tu peux même te peser habillé et puis voir la différence de poids. Par contre, si tu te pèses habillé avant l'entraînement, repèse-toi habillé après l'entraînement pour éviter d'avoir une différence de poids qui soit liée au matériel que tu emportes avec toi et notamment aux vêtements. Donc, ce serait déjà peut-être le premier conseil qu'on pourrait donner pour savoir quelle va être la consommation de liquide pendant l'entraînement. Qu'on parle là de natation, de vélo ou de course à pied. C'est peut-être même plus facile en natation parce que finalement en natation on va pas forcément comment dire, allez, parlons crûment, faire pipi dans l'eau, alors que en vélo ou en course à pied, il est pas rare qu'on s'arrête pour faire une petite pause au bord d'un arbre, et donc il va falloir compenser un petit peu tout ça dans le calcul entre ce qu'on aura consommé, ce qu'on aura évacué, et puis ce qu'on aura ingurgité. Je pense qu'on peut peut-être faire un rapide rappel sur les différentes filières énergétiques, parce que là, Steve nous parle de lipides, de boissons isotoniques, de boissons sucrées. On y va ?
Oui, effectivement. Donc, Denis nous rappelait que le corps humain tire son énergie principalement de trois filières, hein, pour faire simple. Donc, les graisses, les sucres et les protéines. Donc, quand il parle de lipides, effectivement, c'est de solliciter les graisses qu'on stocke. Donc, c'est de l'énergie qu'on stocke à long terme dans nos tissus et qu'on peut reconvertir ensuite sous forme d'énergie qu'on va pouvoir utiliser. Évidemment, c'est ce qu'on vise quand on fait de l'endurance, c'est de perdre du gras, hein, comme on dit dans le jargon. Et puis, de faire tourner la machine à une intensité qui nous permet de brûler des graisses, donc d'être en filière lipidique. Par contre, après, on a la filière glucidique, dont les sucres, qui vont être une filière qui sera capable de fournir plus d'énergie sur un laps de temps donné que la filière lipidique, donc il va demander moins d'efforts au corps pour solliciter de l'énergie. Et puis on a encore les protéines qui sont une source énergétique qui est utilisée un petit peu tout le temps, hein, en parallèle. Mais il y a une chose qui est importante que Denis nous a dit également, c'est que le corps humain, c'est pas une machine qui va faire soit des graisses, soit du sucre, soit de la protéine. Il y a toujours un mix de tout ça. Et ça, c'est important de le comprendre pour répondre à la question de Steve. Parce que s'il est à une très basse intensité, puis qu'une grande partie de l'énergie qu'il va utiliser pour pédaler sur son vélo va effectivement venir de la filière lipidique, ça veut pas dire qu'il n'y a aucun sucre qui est entré dans la mécanique, parce que pendant que Steve, il est sur son vélo, il pédale, donc il a un effort musculaire. Mais on peut imaginer qu'il boit un petit peu, il mange peut-être un petit peu, donc il a aussi un effort digestif qui va demander de l'énergie. Et puis pendant qu'il est sur son vélo, son cerveau va continuer à fonctionner, il va continuer à respirer, il va continuer à bouger le haut du corps, etc. Et tous ces mouvements-là vont aussi nécessiter de l'énergie, et cette énergie aussi, elle va peut-être dépendre d'une autre filière énergétique. Donc au final, effectivement, la filière principale, c'est la filière lipidique, mais il n'y aura pas que celle-là qui sera sollicitée. Donc ça, c'est un élément important pour répondre à la question de manière globale.
Je voulais apporter aussi une petite précision, juste sur des termes. On parle de filière lipidique, on parle de filière glucidique. Ces filières sont aussi souvent déclenchées par les différents seuils aérobie, anaérobie. C'est pas le sujet de l'épisode du jour. On va faire quelque chose d'assez rapide. Par contre, Steve nous parle effectivement d'entraînements en endurance qui sont plus ou moins longs, entre 2 et 6 heures. Mais il nous parle aussi de boissons isotoniques. Est-ce que tu pourrais rapidement nous rappeler ce que c'est qu'une boisson isotonique ?
Alors, on parle de solutions isotoniques ou alors parfois hypotoniques. Tout simplement, c'est une boisson sucrée. Alors, isotonique, ça veut dire que la boisson qu'on va consommer va compenser exactement les pertes en glucides qu'on va réaliser. Par exemple, si je fais un effort au seuil, comme tu le disais, donc un petit peu moins sollicitant la filière lipidique, mais plus sur les sucres, eh bien, admettons que je consomme 60 grammes de sucre par heure. C'est vraiment un taux de bonne consommation de sucre en termes de production d'énergie. Eh bien, si j'ai 60 grammes de sucre dans la quantité de boisson que je vais boire pendant mon heure, je vais compenser très exactement ce que je vais dépenser comme énergie, et donc du coup, ce sera isotonique, donc iso égale, donc on va prendre, assimiler la même quantité de sucre que celle qu'on aura dépensée en énergie. Hypotonique, ça voudrait dire que j'ai un petit peu moins de sucre dans ma boisson, et donc du coup, si je fais 60 grammes par heure de dépenses énergétiques, mais que dans ma boisson, il n'y en a que 40, eh bien ça devient une boisson hypotonique. Par contre, ça peut être la même poudre, le même contenu en fait de la boisson, simplement il est plus dilué, ou alors j'en bois moins, et donc une boisson isotonique est la même qu'une boisson hypotonique. Par contre, c'est la quantité qui va faire la différence.
Alors forcément, les équipes de marketing des différentes marques sont très fortes pour nous vendre ces boissons isotoniques. Vous l'aurez compris, les boissons isotoniques, elles dépendent non seulement de votre effort, elles dépendent de la dilution que vous apportez dans les boissons. Et puis, souvent, une boisson isotonique, en fait, elle est plutôt hypertonique. Et puis, on ingurgite plus de glucides que ce qu'on consomme, ce qui fait que au final, on a un peu l'impression de compenser à égalité, mais en fait, on en absorbe plus. Ce qui nous amène peut-être justement à la question de Steve, c'est est-ce la bonne solution de boire de la boisson isotonique exclusivement donc de la boisson sucrée sur des sorties en endurance ou en théorie la filière principale qu'on va utiliser, ça va être la filière lipidique, donc les graisses et pas les sucres.
Alors, moi, je pense que c'est une bonne solution d'apporter du sucre quand même, parce qu'il y a une dernière chose que Denis nous a dit dans un épisode, et je pense que mon collègue de club de triathlon, Steve, s'en souvient encore tellement il l'a dit fort quand il a posé la question, c'est qu'il est mauvais de s'entraîner trop longtemps à jeun, c'est-à-dire sans apport de sucre. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le corps va toujours avoir besoin de sucre. Et il a même besoin de sucre, en fait, pour solliciter la filière lipidique. Et donc, du coup, c'est important d'avoir un apport en sucre. Par contre, c'est pas nécessaire d'avoir un apport isotonique. On peut apporter un petit peu moins de sucre que ce que le corps consomme, ce qui fait qu'il y a un léger déséquilibre. Et du coup, eh ben, on va perdre un peu de poids, ou en tout cas, on va plus solliciter la filière lipidique parce que le corps sera un petit peu en détresse au niveau du sucre. Mais par contre, il faut garder l'équilibre. Donc, mon conseil, c'est effectivement de continuer à faire un apport en sucre tout de même, pour ne pas déclencher le catabolisme qui est propre à l'effort à jeun et puis qui est néfaste. Mais par contre, c'est de pas apporter autant de sucre que sur un effort où on aurait plus d'intensité et où on voudrait plus d'énergie de la filière glucidique. Donc, s'il met de la poudre de boisson isotonique dans sa boisson Steve, eh bien, ce que je lui conseille, c'est de mettre, par exemple, la moitié de ce qu'il mettrait sur le dosage d'une compétition ou d'un effort plus intense.
Puis ça tombe aussi sous le sens, puisque sur une compétition, effectivement, même si on prend un Ironman, même si on est plutôt en filière lipidique, le fait que ce soit une compétition, qu'on ait des niveaux d'allure ou de watts à maintenir, on va quand même être très souvent à la limite, voire même plus souvent, enfin plus régulièrement qu'à l'entraînement en filière glucidique. Donc, de toute façon, on va consommer beaucoup plus de sucre sur une compétition qu'à l'entraînement.
Alors oui, enfin, ça dépend encore quel entraînement, parce que tu peux avoir des entraînements qui sont faits au seuil ou d'allure compétition, mais si c'est un entraînement basse intensité et pour faire du fond, effectivement, la consommation de sucre, ça moindre, c'est logique.
Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter, Greg ?
Pour moi, c'était vraiment rappeler ces éléments de Denis, hein. Donc, si on synthétise très, très vite, c'est les trois filières énergétiques qui sont toujours sollicitées, mais par contre, c'est la part de chacune qui va varier en fonction de l'intensité de l'effort. Par contre, penser qu'on fait que du gras quand on est à très basse intensité, que du sucre quand on est à haute intensité, c'est pas forcément la vérité, puisqu'il y a toujours un doux mélange des trois, et ça, c'est important de le prendre en compte. Important aussi de considérer le métabolisme de base, hein, ce qui est tout ce qui est pas forcément musculaire lié à l'effort, mais c'est la concentration, c'est la digestion, c'est la respiration, c'est la posture, tout ça, et ben ça continue à nécessiter également de l'énergie. Et puis c'est de penser à cet équilibre pour ne pas entrer en catabolisme, donc apporter quand même du sucre même si on est sur des efforts de basse intensité pour ne pas commencer à détruire nos muscles pour que le corps puisse trouver quelque part une source d'énergie. Ce serait quand même néfaste pour la suite de son entraînement.
Ouais, et puis je rajouterais juste une petite chose qui a pas forcément de lien avec le sport, mais n'oubliez pas que le cerveau est peut-être le plus gros consommateur de sucre dans le corps humain. Donc si vous avez l'intention d'avoir une activité qui demande beaucoup de concentration, eh ben n'oubliez pas la petite barre de céréales, voire même la boisson isotonique, parce que même quand on est assis à une table en train de se concentrer sur quelque chose, ça consomme du sucre, le cerveau en consomme beaucoup.
Oui, ça c'est vrai, dans le métabolisme de base, notre organe qui nous permet de réfléchir et d'avoir un raisonnement, eh bien, fait partie des plus gros consommateurs avec le système digestif.
Mais pas trop, parce qu'après, ça devient néfaste. Bon, enfin, bref, c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'équilibre. Denis nous avait parlé aussi de ce ratio de 1.2 de liquide consommé, enfin, utilisé à compenser lors d'un entraînement, d'où le petit conseil que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire de se peser avant l'entraînement et après l'entraînement. Pour faire simple, il y a tout plein d'autres calculs savants, mais pour faire simple, si on veut être sûr de pas faire trop de bêtises, on perd 1 kg pendant un entraînement, et ben on va compenser en consommant au moins 1 litre 2 de liquide. Alors, il faut bien sûr rajouter le liquide qu'on aura consommé pendant l'entraînement. Mais en gros, si on a perdu 1 kg, il faut qu'après l'entraînement, on boive 1 litre 2. T'es d'accord avec moi, Greg ?
Oui, bien sûr. Mais l'idée, évidemment, ça reste de ne pas perdre ce kilo pendant l'entraînement. Hein. C'est de compenser au mieux pendant l'effort les quantités d'eau qu'on va perdre par transpiration ou en s'arrêtant sur le bas-côté de la route. Mais effectivement, le mieux, c'est de compenser pendant l'effort parce que on sait que si on perd trop de quantité d'eau pendant un effort, ben, ça devient très très néfaste pour la performance aussi. Donc compensez un maximum pendant que vous faites du sport, et puis ben, c'est sûr que s'il y a encore un déficit après, c'est de le compenser avec un ratio supérieur pour vraiment bien réhydrater tout de suite. Tout ce qu'on fait rapidement après l'effort, c'est tout ça de gagner, parce que si on réagit trop tard, et ben, les dégâts sont plus importants et le temps de récupération est plus long.
Encore une chose sur laquelle je voulais réagir, Steve nous parle d'électrolytes. C'est quoi c'est donc et est-ce qu'on en met systématiquement quand on va faire un entraînement d'une heure ou plutôt quand on est sur du long?
Les électrolytes, donc Denis nous en a parlé aussi, hein, c'est les minéraux qu'on va perdre par la transpiration. Donc c'est sodium, potassium principalement, ça peut aussi être un petit peu le magnésium et d'autres électrolytes qui sont un petit peu plus rares mais qui sont aussi essentiels pour le fonctionnement musculaire et le fonctionnement du corps. Mais essentiellement, ce sera sodium, potassium qu'on va essayer de compenser au maximum pendant l'effort. Si vous utilisez une poudre de type Powerbar, Isostar ou n'importe quelle autre marque du marché qui est marquée isotonique, eh bien, ces poudres en contiennent déjà. Il n'y a pas besoin de mettre une capsule supplémentaire dedans. En général, elles compensent, en tout cas partiellement, les pertes qu'on pourra faire pendant l'entraînement si on fait des entraînements courts. Si vous avez tendance à transpirer salé, donc que vous voyez que ça laisse des gros résidus blancs sur les combinaisons en été ou les trifonctions ou les tenues de sport, eh bien c'est peut-être bien de compenser de manière un tout petit peu plus forte cette perte de sodium potassium, mais ça c'est très très personnel, mais c'est bien de le compenser sur des efforts en tout cas de plus d'une heure, une heure et demie, de commencer à vraiment prendre en compte cette compensation de minéraux qui est apportée naturellement par la nourriture, hein, au quotidien. Si on mange équilibré, on a un apport qui est suffisant, mais par contre il y a un apport spécifique pendant l'effort parce qu'on transpire beaucoup plus en quantité et donc on perd beaucoup plus de ces minéraux. Sur des efforts qui vont au-delà d'une heure et demie, c'est bien de les compenser.
Puis éviter de vider la salière dans le bidon, ça sert à rien. Denis nous expliquait que de toute façon le sodium qui est contenu dans le sel de table n'est pas suffisant pour compenser les pertes, ou alors il faut en mettre un sacré paquet. Donc on va plutôt se tourner.
C'est 40% de sodium réel dans le sel de table. Donc effectivement, si on met 100 grammes de sel dans une bouteille d'eau, donc déjà elle est imbuvable, et en fait vous allez faire un apport que de 40 grammes de sodium. Donc évidemment, on n'a pas besoin de telle quantité, c'est juste pour donner une idée de ce que ça représente. Mais effectivement, mettre du sel de cuisine, ça va apporter du sodium, mais pas que. Et donc du coup voilà, c'est préférable d'utiliser des solutions spécifiquement conçues pour les sportifs. On les trouve soit en capsule, soit effectivement en comprimé effervescent, ou alors en poudre à mettre dans sa boisson.
Bon bah écoute Greg, merci pour ces réponses, pour cette première FAQ de la saison 4. N'oubliez pas, si vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez des questions, et ben vous venez nous les poser sur Instagram, vous venez nous les poser par email, ou vous pouvez aller sur le site podcast.nakan.ch, il y a un gros bouton nous contacter, et puis là vous pouvez même laisser des petites capsules audio pour nous laisser vos douces voix, et on répondra à ces questions en diffusant votre question.
Eh ben oui, tout est dit, donc on se réjouit de recevoir vos questions, d'en débattre avec Hermano et puis de vous les proposer très prochainement dans des FAQ. Nous on vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode régulier de la saison 4 du podcast.
Super, à la semaine prochaine Greg, ciao.
Ciao.